Par actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous, comment allez-vous? Nous sommes aujourd'hui le 31 janvier, incroyable, mais le mois de janvier est déjà passé. Il me semble que ça faisait seulement quelques jours qu'on se souhaitait la bonne année. Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter les paractualités du jour. Les titres, financement fédéral des soins en santé, le RPCU, le regroupement provincial des comités des usagers, demande à la population d'appuyer le Québec en participant à la campagne d'IS Trudeau, notre argent. Pourquoi les mouvements stéréotypés et répétitifs des autistes sont de petits gestes qu'il faut respecter. Également aujourd'hui à l'émission, pour éviter des risques de chute, un dermosquelette qui change des vies et puis une déficience en fer serait-elle liée à l'apparition de troubles auditifs? Et puis très bon score pour la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec qui a permis d'amasser plus d'un million de dollars dimanche dernier. Je vais recevoir aujourd'hui deux personnes, du moins m'entretenir avec deux personnes. Elle est déjà en studio, ce sera Madame Pierrette Gagné, directrice générale du Centre de référence du Grand Montréal, avec ce chiffre magique qu'il va falloir retenir, 211. Et puis Edith Kaise, directrice de l'Association du Québec des enfants avec problèmes auditifs, autrement dit la CEPA, au sujet du programme « Le plaisir de lire ». Grosse émission, comme vous le voyez, on commence tout de suite avec cet appel du RPCU, le regroupement provincial des comités des usagers, qui lance un appel aux Québécois à se rallier pour exiger que le premier ministre Trudeau respecte, ses engagements électoraux en matière de financement des soins de santé au Québec. C'est notre argent et nous en avons plus que besoin. Une partie du financement du système de santé provient du gouvernement fédéral sous forme de transferts aux provinces, lesquelles sont responsables de la santé. L'ancien gouvernement conservateur a réduit ses transferts aux provinces et lors de la dernière campagne électorale, M. Trudeau a promis de les rétablir, mais il ne veut plus le faire. L'équation est simple. Techniquement, on parle d'une réduction des augmentations aux provinces, ce qui finit par être une réduction tout court. Les fonds transférés ne seront plus suffisants pour couvrir les besoins en soins de santé. Cela représente des pertes énormes pour les prochaines années au Québec, qui se traduiront, et là c'est écrit en gros et en gras, encore et encore, par des coupures. Nous sommes plus de 8 millions d'usagers du réseau québécois de la santé et des services sociaux, et nous exigeons que notre argent nous revienne équitablement. Respectez vos engagements, M. Trudeau, ne soyez pas conservateur, ne réduisez pas le financement fédéral en santé au Québec. Nous avons besoin de votre argent, de notre argent, pour notre santé, pour nos proches aidants et pour les personnes vulnérables. Cette campagne proposée par le RPCU, avec un signe de dièse ou comment on dit slash peut-être, mot-clic Trudeau, notre argent, est principalement déployée sur les réseaux sociaux, notamment sur une page facebook.com / Trudeau, notre argent. Un blog maintenant, mais un blog qui a fait l'objet d'un article publié sur la version québécoise du Huffington Post. Il émane de Mélanie Ouimet, qui est elle-même une autiste assumée, nous dit-elle, et humaniste dans l'âme, et qui nous dit « Laissez aux autistes leurs petits gestes et rituels, même si vous ne trouvez pas ces comportements assez gracieux et convenables. Les petits gestes particuliers, ce maniérisme moteur, les gestes stéréotypés et répétitifs sont les termes néfastes couramment utilisés, comme battre des mains, agitation, se balancer, se taper sur la tête, faire des mouvements complexes avec son corps, tournoyer sur soi-même, ramasser des objets ronds, etc. Et ce sont des comportements retrouvés chez plusieurs personnes autistes. Dans les postulats éducatifs des thérapies comportementales intensives, ICI, ces comportements sont jugés problématiques et les professionnels jugent essentiel de les supprimer. Ces gestes sont souvent très mal vus par la société et spontanément, nous avons la fâcheuse tendance à demander aux personnes autistes de réprimer leurs comportements jugés inacceptables socialement. Mais peu importe quel comportement inoffensif une personne autiste a, chercher à le limiter, dit Mme Ouimet, à le refouler ou à l'ignorer est rarement une bonne solution et même à l'inverse, ces interventions peuvent s'avérer néfaste. Nous détruisons la personne autiste à l'intérieur qui en vient à croire qu'elle est monstrueuse, ce qui nuit considérablement à son développement. Alors n'hésitons pas à montrer notre enthousiasme face aux joies que nous confient les autistes ou à leurs émotions, à nous montrer leur empathie ou leur peine ou leur colère. L'expression d'une émotion n'a pas de forme ni de convenance et surtout, lorsque l'émotion a comme racine la joie, c'est dans la spontanéité qu'émerge l'authenticité. Madame Pierrette Gagné, bonjour Madame Gagné.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale du Centre de référence du Grand Montréal. Ça y est, nous l'avons, ce site web aussi sur Montréal.
Oui, enfin.
Enfin, hein? Ça faisait longtemps
Après
qu'on l'attendait.
Après plusieurs
hein?
Mois de discussion, de sensibilisation, la Ville de Montréal a décidé de donner son aval au projet 2-1-1. En procédant à une première étape, à un premier volet du service, la banque de données en ligne. Cette banque de données-là, en fait, c'est un répertoire de quelques 5000 ressources qui couvrent toute la grande région de Montréal, des ressources sociales et communautaires qui peuvent venir en aide à tout citoyen qui a un besoin particulier, que ce soit relié à sa situation familiale, à une situation de précarité, de revenus, de violence,
aussi,
etc.
J'imagine.
Pardon?
Handicap aussi, j'imagine.
Oui,
si
tout
la
à fait.
Personne recherche un organisme
oui.
pour pouvoir l'aider,
oui,
par exemple.
Des organismes, donc, des groupes d'entraide et tout ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser que le site a été conçu avec le consortium du web et avec des suggestions d'AlterGo pour être le plus accessible possible aux personnes qui ont des problèmes liés à la vision, etc.
D'accord. Donc, en plus, il est accessible.
Tout à fait.
Ça,
et
c'est
sur toutes les plateformes.
Et sur toutes les plateformes. Ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup entendre oui. ici à Canalem. OK. Quelles sont les améliorations, alors, par rapport à ce qui existait? Parce qu'il existait déjà quand même une forme d'aide ou pas du tout?
Ah, c'est-à-dire que le Centre de référence du Grand Montréal existe depuis 60 ans et
oui.
depuis le début, il y a toujours eu à la fois un service téléphonique dont je vais vous parler
D'accord.
tout à l'heure, qui existe ailleurs à Laval et bientôt dans la MRC de l'Assomption.
Mais
oui. aussi des répertoires qui présentaient annuellement les ressources disponibles pour tous les besoins dont je vous parlais tout à l'heure. Le plus, c'est que c'est maintenant en ligne, accessible, donc tout le
D'accord.
temps, sur un site très convivial et qui permet une mise à jour très, très
régulière.
Fréquente.
Mais est-ce qu'on peut, on ne peut pas encore, si j'entends bien, parler avec quelqu'un en ce
pas
moment
Pas dans
à
la
Montréal.
Région. C'est-à-dire que vous pouvez parler à quelqu'un au centre de référence, mais pas avec les trois chiffres 2-1-1. Ça va venir plus tard, j'imagine. L'objectif est de couvrir toute la communauté métropolitaine de Montréal dans l'année 2017, dont Montréal. C'est un premier pas qui a été fait par la Ville de Montréal. Quand toute la communauté métropolitaine, les municipalités, les quelques 82 municipalités seront prêtes à se joindre, Montréal le fera également. Ça sera un autre très grand plus. Niveau accessibilité, bien sûr, trois chiffres facile à retenir, mais aussi accès à 200 langues. Donc, on pense aux personnes immigrantes qui ont besoin d'avoir, elles aussi, de l'aide et qui pourront, grâce à un service d'interprète, exprimer ce besoin et être transférées à une ressource. Alors, ça, c'est incroyablement important.
7 jours sur 7?
7 jours sur 7, de 8 heures le matin à 18 heures, et ça inclut les jours fériés. Alors, vous imaginez que pendant les périodes de Noël et les congés,
oui.
Alors que ces personnes-là souffrent d'isolement, c'est très utile.
Alors, est-ce que vous voulez qu'on parle de ce qui va être implanté là, à l'Assomption?
Oui. En fait, la ville de Repentigny et toute la MRC de l'Assomption, qui est sur la rive nord et qui couvre à peu près 125 000 personnes, a décidé, après avoir fait une étude à la demande, dans la foulée d'un projet pour les aînés, de donner son aval aussi au projet 2-1-1, service téléphonique et web, et ce sera en force en mars.
Mm-hmm.
Ça va être annoncé, c'est déjà été annoncé, mais ça va être repris la journée du 2-1-1 qui est le 11 février. Et ils vont avoir aussi ajouté à ça, dans leur cas à eux, qui va dépendre de la MRC, un service au comptoir pour les personnes qui voudraient se déplacer.
Aussi.
Alors, c'est vraiment accessibilité à tout point
oui,
de vue.
Oui, oui.
Et on poursuit donc avec d'autres municipalités. Je ne peux pas vous donner de nom aujourd'hui, mais qui sont sur le point d'adhérer aussi au projet 2.1 oui. parce que je rencontrais la semaine dernière des maires de la Couronne-Sud et tout le monde
est
croit
intéressé,
à la pertinence.
Bien sûr. Sans compter que ça existe ailleurs, hein, en Ontario,
existe,
au Canada.
Ça existe partout au Canada,
partout.
Dans les grandes villes. La grande agglomération de Montréal va être la
dernière.
Je dirais que oui.
Oui,
ça a été très long. Il y a eu la région de Québec, Chaudière-Appalaches, la capitale nationale qui a depuis... plus de 8 ans, le 2-1, mais dans la région de Montréal, pour toutes sortes de raisons
que vous ignorez, oui.
Oui, c'est ça. Ça n'a pas eu un coup d'envoi, mais je vous dirais que ce qui a fait qu'il y a eu un dégel ou vraiment un intérêt pour le 2-1, c'est les personnes aînées. Et c'est donc à travers des politiques de municipalités amies des aînés ou des initiatives comme celle-là ou de politiques familiales que les citoyens ont demandé un service d'accessibilité complet aux ressources et...
Ça existe et c'est ce qui s'appelle référence aînée, c'est ça?
Oui.
Exactement. Donc,
et
il s'agit...
Et référence aînée on a un soutien, ça m'amène à vous parler d'un soutien qu'on a pour une deuxième année avec le ministère de la Famille, justement...
D'accord.
Pour les aînés, pour faire en sorte que référence aînée puisse aussi devenir 2-1, donc accès encore facile.
D'accord. Ça veut dire qu'avec ce service, il n'y a plus une seule personne âgée qui pourrait être seule, finalement.
Bien, ça va aider.
Ça va aider.
Oui, ça va aider.
Non, mais c'est dans ce sens-là.
Mais c'est très pertinent ce que vous dites, parce que souvent, les personnes aînées nous appellent simplement pour sortir de leur isolement,
et voilà.
Avoir une voix à l'autre bout.
Et voilà. Madame Gagné, il ne nous reste plus qu'une trentaine de secondes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter sur le 2-1? Il faut que ça me rentre dans la tête, Clotilde. Ce n'est pas le 211, c'est le 2-1.
Oui. Ben, je voudrais vous donner l'adresse pour la banque de données pour Montréal. C'est www.21qc.ca.
D'accord.
Alors, on arrive sur un portail où on voit la banque de données pour Montréal, celle de Laval et celle pour la région de Québec. Et donc, les gens peuvent y aller en tout temps. C'est très facile après de repérer les ressources par quartier, etc.
Et je suis convaincue que si on fait simplement 2-1-1, on va vous trouver.
C'est ça.
Merci, Madame Gagné.
Au revoir.
Merci beaucoup. Madame Gagné, directrice générale du Centre de référence du Grand Montréal. Bonne journée. Par actualité régionale maintenant, le 20e Téléthon de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec a permis d'amasser plus d'un demi-million de dollars dimanche soir, mais c'est déjà énorme. On est vraiment, vraiment content parce qu'on sait que la population de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec est encore après 20 ans derrière nous et nous fait confiance, a fait valoir le directeur général de la ressource, Rémi Mailloux, de passage dans nos studios, dans les studios de Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue lundi matin, après une courte nuit. C'est une roue qui tourne, les gens donnent des sous parce qu'ils sentent qu'on aide bien les personnes handicapées. Le président de l'organisme, Denis Trudel, dit pour sa part être soufflé par la générosité des gens de la région. C'est quand même merveilleux pour une population de moins de 150 000 personnes de ramasser 500 000 $. C'est un ratio per capita de plus de 3,50 $ par personne et c'est un excellent rendement, c'est même exceptionnel. Denis Trudel, c'était des propos de M. Trudel, le président de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Avec près de 2000 membres, la ressource assure que cet argent sera utilisé à bon escient. On a des demandes, si on voulait, on pourrait dépenser $1 million. On a les demandes pour, sauf qu'on est obligé de se rationner, d'aller aux demandes les plus importantes, les plus vitales et les plus urgentes, poursuit M. Trudel. Le plus grand défi actuellement de la ressource, mille excuses, c'est d'assurer la pérennité de l'organisme, poursuit-il. L'héritage de François Goupil, au nom de leur fils, Yvon Goupil et Diane Dupré, eh bien, ils ont remis un chèque de 9 150 $ à Dystrophie musculaire Canada. La résidente de la section locale de l'organisme, Jasmine Côté, a apprécié cette marque de générosité. Avant de partir pour le grand voyage, François Goupil a laissé un héritage à Dystrophie musculaire. La famille du Saguenayen atteint de dystrophie musculaire de Duchenne, décédé à 35 ans au début du mois de janvier après avoir succombé à une pneumonie, a remis 9 150 $ au volet régional de la Fondation lundi matin à la résidence des Îlots Déboisés à Chicoutimi. En août dernier, M. Goupil avait fait part du désir de se doter d'un bras mécanique d'une valeur de 40 000 $ dans l'espoir de se donner une certaine autonomie. Celui qui était prisonnier de son corps en raison de la maladie avait alors lancé une campagne afin de recueillir des dons. En l'espace de quelques mois, il a frôlé la barre des 10 000 $, mais malheureusement, il est décédé avant de porter sa mission à terme. La gorge nouée par l'émotion, Mme Dupéré a vanté la détermination de son fils, qui n'a jamais cessé de faire des efforts pour amasser l'argent nécessaire. Il avait une espérance de vie de 20 ans, il s'est rendu à 35, a-t-elle fait valoir. Venir remettre l'argent ici nous fait beaucoup de bien, même si ça demeure difficile. Lundi, Diane Dupéré était notamment accompagnée de son mari, Yvon Goupil. C'est un papier de Jonathan Hudon qu'on pouvait lire dans Le Quotidien. Alors, je devrais avoir au bout du fil, si tout va bien, et apparemment tout va bien, la directrice de l'AQEPA, l'Association du Québec des enfants avec des problèmes auditifs, Edith Kaes, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, pas si mal, oui.
Bon, ben écoutez, je suis ravie de vous parler encore une fois ce matin parce que vous nous parlez, vous nous partagez, ma foi, un programme. Et quand je vois le titre du programme, moi, ça ne peut que me réjouir, c'est « Plaisir de lire ».
Oui, oui.
Alors, quel est ce programme, Edith?
En fait, c'est un programme, vous comprenez, c'est ça que nos enfants qui vivent avec une surdité, on essaie de l'aider finalement au maximum que nous pouvons pour l'acquisition de langage, entre autres. Donc, le programme Plaisir de lire, c'est ça, c'est un programme de stimulation par la lecture.
Oui.
Pour les enfants qui vivent avec une surdité de 0 à 5 ans. Mm-hmm. Donc, juste avant la scolarisation, ça dure environ 2 à 3 ans. On fait une visite à peu près aux 4 à 6 semaines, parce que oui, ça dépend aussi de la disponibilité de la famille. Puis il faut comprendre que c'est donné directement chez les familles. Alors ça,
ah, c'est ça, évident. Directement.
Oui, vraiment, c'est un programme qui est donné à la grandeur du Québec, non, dans toutes les régions du, oui, Québec. Et puis, c'est bon aussi, pas juste pour les parents, pour les enfants, mais les frères et sœurs aussi. Mm-hmm. Donc, ça aide tout le monde. Fait quand, si l'enfant débute le programme avant l'âge d'un an, s'il a été dépisté, oui, finalement, si sa surdité a été dépistée assez tôt, il y a des visites supplémentaires là, qui peuvent être ajoutées.
Mais qui vient là? Ce sont des formateurs? Ce sont des bénévoles?
On a deux personnes, deux mamans de grande expérience qui ont eu eux-mêmes un enfant avec une surdité. Elles ont profité, bénéficié de ce programme-là.
Fantastique.
Et de fil en aiguille, finalement, ce sont elles qui le donnent maintenant. Elles suivent plein de formations. Elles utilisent également le langage des signes parce que certains enfants sont gestuels et non oralistes.
Mm-hmm.
Alors, oui, alors les visites, c'est à domicile gratuitement pour eux, partout au Québec, par deux intervenantes.
Encore une fois, je trouve que c'est vraiment une idée fantastique. Alors dites-moi, parlez-nous des bienfaits de la lecture pour le développement des enfants avec des problèmes auditifs.
Ben, écoutez, ça a un impact absolument incroyable.
Je vous crois, madame.
Vraiment incroyable. Parce, oui, qu'imaginez, déjà en partant, là, pour vous dire rapidement, c'est 3 services en 1, là, ce programme-là.
Oui.
Il y a des périodes de lecture, l'enfant puis les parents, c'est un moment privilégié de détente puis de découverte.
Bien sûr.
Nos intervenantes, on a une banque de 3000 livres de jeux éducatifs, on les prête. Et aux frères et aux sœurs. C'est tout un partage d'expériences, d'informations pour les parents.
Wow.
On suggère des stratégies pour rendre la lecture stimulante et enrichissante. Et aussi, on donne pour faire connaître des astuces pour faciliter le quotidien. Donc, tout ça, là, ça favorise le développement du langage chez l'enfant vivant avec une surdité, ce qui permet une meilleure connaissance du monde, de soi.
Mm-hmm.
Ça facilite aussi la socialisation, ça stimule l'imagination, ça améliore l'habileté à s'exprimer, ça aide l'enfant à développer son langage, à favoriser ses apprentissages. Puis, ce n'est pas rien, comme on dit.
Et en mais non, plus, exactement.
Et voilà, puis ça encourage en plus l'amour des livres puis le goût de la lecture dans la famille. Mais on ne dira jamais assez comment la lecture, c'est important.
Vous mais
l'avez
oui.
vous-même dès le départ. Puis, ça familiarise les parents aussi avec le monde de la surdité, parce que tu sais, la lecture parent-enfant, ben, ça permet la compréhension de l'impact de la surdité sur la vie de l'enfant puis ses capacités. Fait que, ça soutient le parent là, dans le développement de ses compétences parentales, des astuces et tout ça.
Mais rassurez-moi, Madame Case, quand vous dites que vos intervenantes sillonnent le Québec, elles ne sont pas que deux. Vous avez du monde un petit peu partout, c'est ça?
Oh que non, malheureusement. Je dis là, vous touchez là justement un point bien important du financement. Nous avons deux intervenantes qui sillonnent à elles seules le Québec et en plus, elles font chacune cela pendant 3 jours par semaine. Mmh. Vous comprendrez que si l'intervenante qui va, par exemple, au lac Saint-Jean, au Saguenay, mmh. mais, va profiter évidemment de son voyage, de son déplacement pour rencontrer tous les enfants.
Bien sûr.
Qui ont besoin de ce programme-là. Ben oui, juste deux, on a vraiment besoin de beaucoup, beaucoup plus. Ça ferait pourtant tellement une grande différence. On
mais est-ce que vous avez l'argent pour pouvoir, parce que j'imagine qu'elles ne font pas ça bénévolement, ces madames-là.
Bon. Non, bien sûr, je veux dire, elles ont leur salaire, mais il faut payer tous les déplacements.
Mais c'est ça, en plus.
C'est
est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que la CEPA a les reins assez solides pour pouvoir avoir d'autres formatrices comme ça ou d'autres lectrices? Non, malheureusement,
non, on
n'a
pas les reins assez solides.
Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Allez.
Ben, écoutez, nous, on invite tout le monde à devenir membre de la CEPA parce que
oui.
vous comprenez, c'est un enfant qui est sourd, a besoin du soutien de sa famille, de ses amis, à quelque part pratiquement du soutien de sa communauté. Mm-hmm. Alors, plus on peut ramasser de sous, les gens peuvent nous faire des dons directement en ligne sur notre site internet www.akepa.org. On essaie de convaincre aussi les différents paliers gouvernementaux de nous donner plus d'argent. Le programme Plaisir de lire, c'est grâce, ça vient de finalement du gouvernement du Canada, mais c'est un montant qui demeure toujours le même, vous comprenez,
oui, je comprends
depuis
très
de nombreuses
bien.
Années. Alors, on fait avec, mais on fait beaucoup.
Oui,
on
ça
fait
c'est certain.
Pour le peu que nous avons.
Ça c'est certain. Mais écoutez, madame, je ne peux, Edith, hein, que vous féliciter. Puis bravo à ces deux femmes hein, qui se donnent corps et âme à leur mission. Et bravo aussi à la vôtre. Et on va, je vais m'assurer que le message passe via notre site internet également sous la rubrique des nouvelles. Voilà.
Ah ben ça c'est gentil, c'est apprécié parce qu'évidemment, vite fait, là, si je peux me permettre, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que, la CEPA, c'est une association, c'est ça, de parents bénévoles, hein, qui sont là, nous, il y a des permanences dans différents endroits du Québec, mais ça demeure quand même du bénévolat.
Bien sûr.
Et puis, il y a de 400, je l'avais dit la dernière fois, mais il y a quand même au Québec de 400 à 600 enfants qui naissent avec une surdité. Nous, on souhaite être là le plus possible pour les parents qui viennent d'apprendre la surdité de leur enfant pour les accompagner. Oui, alors on a besoin que le message soit transmis, que la nouvelle étant qu'ils ne sont pas seuls. Hein, on est
non,
là pour les
ça.
Aider. Il y a des parents qui sont passés par là. Alors oui, tout effort dans le sens de nous faire connaître, de partager l'information, de faire comprendre l'importance du programme de plaisir de lire, puis les besoins, malheureusement,
continuels
d'argent.
Et oui, et nous, on continue à essayer de faire en sorte que ça change, mais effectivement, besoin d'argent pour tout le monde.
Voilà.
Edith, je suis obligée de vous abandonner. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se reparle bientôt sur les ondes.
Voilà, ça va me faire plaisir. Bonne journée à vous.
Au revoir.
Merci.
Nous sommes maintenant dans le cadre des actualités nationales. Pour éviter des risques de chute, un dermosquelette qui change des vies, c'est un papier d'après TVA Nouvelles. Les chutes de plus en plus fréquentes chez les personnes âgées représentent un problème de santé publique qui prend de l'importance. Un appareil pourrait transformer la vie de nombreux patients âgés. Le dermosquelette a complètement changé la vie, par exemple, de Raymond Levasseur. Cet ex-militaire de 57 ans a de graves problèmes aux deux genoux. Sa situation se détériorait et il devait se déplacer avec un déambulateur. Et puis, il a entendu parler du dermosquelette. Avec l'appareil, dit-il, je suis capable de marcher, je suis capable même de courir. C'est un Québécois et son équipe qui ont inventé le dermosquelette en 2010 à la demande de l'armée canadienne. Un soldat aujourd'hui porte de 100 à 120 livres de surcharge de poids tous les jours. Donc, conséquemment, rapidement, il y a des blessures musculo-squelettiques, explique Stéphane Bédard, président de BTMIA. Les essais se poursuivent au Canada, de même que dans l'armée américaine, mais le produit peut venir en aide à plusieurs autres patients. Encore faut-il qu'il y ait encore une activité musculaire dans les membres inférieurs. Le seul problème est que cet appareil coûte 45 000 $ et qu'il n'est pas encore remboursé par le gouvernement. À l'international maintenant, une étude publiée dans la revue spécialisée The JAMA Network est reprise par Marie Privé, qui nous dit qu'en cette période hivernale, les carences vont généralement bon train, magnésium, vitamine D, calcium, phosphore. Ces vitamines et minéraux que l'on trouve en majorité dans l'alimentation sont pourtant indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Et une carence attire tout particulièrement l'attention de la science, une déficience en fer qui serait en effet liée à l'apparition de troubles auditifs. Ce sont des chercheurs américains de l'Université d'État de Pennsylvanie aux États-Unis qui avancent cette hypothèse. Une carence en fer peut être à l'origine de différents symptômes comme une anémie, déficit en globules rouges dans le sang, fatigue, tachycardie, vertige. Si l'on en croit les chercheurs, les travaux de ces chercheurs, une nouvelle conséquence viendrait donc s'ajouter à la liste, la perte de l'audition. Amateurs de Super Bowl, voici une invitation du CQPA. Le Super Bowl, la suprématie du football américain. Eh bien, vous êtes invités à venir célébrer ce Super Bowl. Vous pouvez venir seul ou avec vos guides, vos accompagnateurs. On a aussi pensé aux veuves de sport ou à ceux qui voudraient venir se tremper dans l'ambiance pour le plaisir. Plusieurs activités sont au rendez-vous et nous ferons un moitié-moitié également. Alors, ça va se passer le dimanche 5 février. Ça se passe au Centre communautaire Cecitas Lions, 523 Louis XIV, sur Louis XIV, à Québec. On nous dit à la note que vous pouvez apporter, c'est écrit comme ça, vos cochonneries et breuvages alcoolisés dans la mesure où ces derniers ne sont pas des contenants cassants. Et sur place, ils vont vendre des croustilles et des boissons gazeuses et puis vous être servi également des ailes de poulet et autres cochonneries, puisque c'est le terme employé, manger pendant le Super Bowl. Ça coûte combien? 10 personnes pour une personne handicapée, 14, pardon, 10 personnes, 10 dollars pour une personne handicapée et 14 pour une personne voyante. La date limite d'inscription, le jeudi 2 février à midi. Comment s'inscrire? On passe par le courriel du CQPA qui est cqpa@belnet.ca. Voilà ce qui met un terme à C'est par actualité du 31 janvier 2017. Merci à toute mon équipe et merci à vous. C'était Clotilde Sey qui vous souhaite une excellente journée et qui vous dit à demain.